En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 26 mars 2007, le professeur de médecine Lucien Israël, membre de l'Institut, président de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2007, a fait une communication devant ses confrères intitulée « Le cancer, de quoi s'agit-il » Retrouvons-le en séance.
Mes chers confrères, ce n'est pas une tâche facile d'expliquer ce qu'est un cancer, où nous en sommes, mais je vais le tenter. Qu'est-ce qu'on appelle cancer ? Quelle est la nature de ce phénomène ? Il y a dans chaque tissu une couche profonde de cellules sur laquelle reposent 4 à 5 couches de cellules adultes qui, elles, ne peuvent pas se diviser. Et la dernière couche est composée de cellules qui ont vieilli le plus longtemps et qui, petit à petit, se détachent et meurent. Mais la couche profonde, je vous le disais, nous considérons qu'il s'agit de cellules souches. Et ce que fait une cellule souche, donc c'est la seule qui a la capacité de se reproduire, les autres non. Lorsqu'une cellule de la couche superficielle se détache et meurt, une cellule souche se divise en deux parties, l'une qui redevient une cellule souche et l'autre qui, petit à petit, va se différencier et remplir le rôle du tissu auquel elle appartient. Elle va entreprendre donc un parcours de couche en couche jusqu'à son détachement aussi et sa mort. Et l'autre moitié, à ce moment-là, entrera, le cas échéant, en division. Donc ceci est la norme pour tous les tissus, aussi bien la peau que les viscères, les organes d'essence, les muscles, etc. Alors, qu'est-ce que le cancer ? C'est un dommage qui affecte une cellule souche. Non pas, comme on l'a cru pendant longtemps, une cellule superficielle, mais toujours une cellule souche. Et ce dommage a pour conséquence que cette cellule va elle-même continuer à se diviser, alors que dans un tissu normal, ça n'a pas lieu. Elle va se diviser en dehors de tout besoin et à une cadence accélérée, le résultat de chaque division étant alors deux cellules souches qui restent affectées du dommage génétique initial et qui se reproduisent régulièrement, puisque la première cellule, c'est elle qui a été affectée par un dommage, donc ce dommage reste et reproduit à chaque génération, et cela finit par former une tumeur qui augmente progressivement de volume. Chacune de ces cellules acquiert très vite d'autres pouvoirs, comme la capacité de se protéger contre les cellules immunitaires, mais aussi la capacité de fabriquer des néovaisseaux qui permettent à cette tumeur de recevoir du sang, d'entrer dans la circulation, chaque cellule pouvant alors coloniser un organe quelconque au sein duquel elle formera une nouvelle tumeur, ce qu'on appelle une métastase, mais aussi, au fil des générations, la capacité d'acquérir peu à peu une résistance lui permettant de se reproduire malgré diverses thérapeutiques et en particulier malgré des chimiothérapies. Donc le dommage initial est celui d'une cellule souche de la couche la plus profonde de chaque tissu. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la biologie ? C'est en réfléchissant à ces comportements cellulaires que j'ai découvert la nature réelle de cette maladie et sa place dans l'évolution de la vie sur cette planète. Je vous livre ici ce phénomène qui, malgré une publication dans une grande revue américaine de biologie en 1996, ne semble pas avoir intéressé jusqu'ici la plupart de mes confrères, et cela entre autres probablement parce qu'on m'avait mis à la retraite en 95. Mais voici ce qu'il en est. Les bactéries que nous connaissons tous ont des ancêtres qu'on appelle les archéobactéries qui sont apparues sur cette planète il y a un peu plus de 3 milliards d'années et qui ont survécu à des milliers d'agressions environnementales, qu'elles proviennent de la température, de l'acidité, de l'assèchement et de toutes les toxicités possibles liées à des modifications considérables du milieu ambiant au cours des siècles. Donc ça fait plus de 3 milliards d'années. Il se trouve qu'un chercheur français, un bactériologiste très compétent, le docteur Radman, a découvert que cette résistance des bactéries est due à un groupe d'une dizaine de gènes qui sont muets dans les circonstances normales d'existence au sein du milieu naturel, mais qui, en cas de menace chimique ou physique, radiation, etc., en cas d'agression génétique, se réveillent ces gènes, qui sont au nombre d'une dizaine, ils entrent en fonctionnement pour assurer non seulement la survie de la cellule, mais le fait qu'elle puisse se donner des dépendances en dépit de ces dommages. Ce phénomène a reçu le nom de système SOS et a été vérifié par tous les bactériologistes. C'est ainsi que donc les microbes agressés peuvent se donner une descendance. C'est parce qu'ils réveillent ce petit groupe de gènes, le système SOS. Lorsque j'en ai pris connaissance en lisant les publications médicales comme chacun de mes confrères, j'ai eu la curiosité de rechercher ce que ces gènes étaient devenus au cours de l'évolution. Et j'ai découvert, mais sans aucun travail personnel, il m'a suffi de comparer des textes, que ces mêmes gènes persistent dans les cellules humaines et ils sont silencieux en permanence dans les circonstances normales. Mais ils se réveillent dans les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que leur fonction dans les cellules qui ont reçu un dommage, les transformant en cellules cancéreuses, leur fonction est d'assurer une descendance à ces cellules, alors que ça n'est pas le cas pour les cellules normales. Et donc, ils enclenchent de nouvelles divisions avec des lignées qui sont résistantes, et cela en acceptant les dommages qui auraient tué une cellule normale. Donc, c'est ce système SOS qui a été conservé au cours de l'évolution par toutes les espèces vivantes, y compris jusqu'à nous, et qui explique le comportement des cellules cancéreuses. Ainsi donc, le cancer n'est que la remise en fonctionnement réservée aux cellules souches de la capacité de se donner une postérité en dépit de tout dommage. Voilà ce qu'est un cancer. Alors, venons-en aux chiffres maintenant observés chez les humains. Je vais vous communiquer des chiffres de l'année 1995, parce que c'est les seuls qu'on ait vraiment à jour actuellement, et ils ont probablement augmenté depuis. À cette époque, en France, on comptait environ 250 000 nouveaux cas par an de cancer, tout cancer confondu, que ce soit les os, les viscères, les organes, toute cellule souche peut devenir cancéreuse. Bon. Eh bien, donc, 250 000 nouveaux cas par an, dont 150 000, soit plus de 6 sur 10, concernaient des personnes de 45 à 74 ans, répartis à raison de 90 000 chez l'homme et 60 000 chez la femme, tout type de tumeurs confondues, les plus répandus étant le cancer du poumon chez l'homme et le cancer du sein chez la femme. À partir de 75 ans, ces chiffres baissent, ne serait-ce qu'en raison de la baisse du nombre des survivants, mais ils représentent encore 27% du nombre de nouveaux cancers recensés chaque année dans l'ensemble de la population. Notons ici qu'après 85 ans, mais seulement après 85 ans, le pourcentage de cancer décroît dans les deux sexes, phénomène qu'on attribue au fait que les personnes ayant atteint cet âge en bonne santé le doivent à des gènes de résistance à diverses agressions. Alors, comment se présente maintenant la croissance tumorale ? Ce phénomène a fait l'objet de beaucoup de mesures auxquelles j'ai personnellement beaucoup participé aux États-Unis et en France. Pour ne citer que des moyennes, un cancer ayant la forme d'une sphère de 1 cm de diamètre, tel qu'on peut en repérer sur une radio pulmonaire ou sur une échographie du foie, par exemple, eh bien, cette sphère de 1 cm de diamètre comporte 1 milliard de cellules, en moyenne. Le temps de doublement en volume de cette tumeur est variable, mais la moyenne est de 100 jours. À cette époque, n'est-ce pas ? Alors, on a pu calculer que, en moyenne toujours, cette tumeur de 1 cm de diamètre est née de la première cellule tumorale en moyenne 8 ans auparavant. Et la vitesse de croissance de ces tumeurs est décrite par une équation exponentielle, dite de Gompertz, mais qui a une particularité, c'est que son exposant décroît régulièrement en fonction du temps. Je ne vais pas vous faire des dessins, mais enfin, c'est une exponentielle, mais dont l'exposant décroît en fonction du temps. De sorte que la vitesse de croissance d'une tumeur diminue régulièrement. D'une part, parce que toutes les cellules ne survivent pas, mais aussi et surtout parce que beaucoup de cellules s'échappent de la tumeur principale, elles iront coloniser d'autres tissus avec une vitesse de croissance comparable. Lorsque on peut, par des documents, par exemple parce qu'on retrouve ou une mammographie ou une radio pulmonaire faite quelques mois auparavant, on peut donc évaluer la vitesse de croissance de telle ou telle tumeur, eh bien, c'est, comme je vous le disais, il y a une réduction régulière, mais le pronostic est en grande partie lié à la vitesse de croissance d'une tumeur. Il y a des tumeurs très lentes, qui n'évoluent que très faiblement, qui mettent très longtemps, et par conséquent, on a du temps pour mettre au point des stratégies utiles. Et puis, il y a des tumeurs dont la vitesse de croissance est beaucoup plus rapide. En tout cas, les métastases ont des vitesses de croissance comparables à celles de la tumeur primitive. Donc, l'une des données qui résulte des considérations ci-dessus est qu'il ne faut pas, lorsqu'on détecte une petite tumeur isolée, penser qu'un traitement local seul suffirait, parce que les cellules ont eu des années pour s'échapper de la tumeur principale et pour coloniser d'autres tissus. Il faut considérer que la présence de métastases microscopiques, indécelables par les moyens actuels, est vraisemblable, et donc qu'un traitement général de sécurité prolongé de plusieurs mois est un choix qui doit s'imposer outre le traitement local de la tumeur. J'aurai l'occasion de revenir sur cette notion. Alors, limite des traitements locaux, maladies résiduelles. En ce qui concerne les traitements locaux, la chirurgie est certainement la plus appropriée quand elle est possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des zones du cerveau où il est dangereux d'aller promener un bistouri. Il y a des personnes qui sont dans un état tel qu'elles ne supporteraient pas une chirurgie invasive. Donc, la chirurgie n'est pas le seul traitement local à envisager. Mais je dois ici vous faire connaître un fait avéré depuis longtemps et très souvent ignoré, qui est même le plus souvent absent des manuels. Il a été découvert il y a quelques années par des biologistes des États-Unis est parfaitement confirmé depuis que certaines tumeurs fabriquent et répandent des substances qu'on a dénommées des chalones et qui ont la propriété de retarder la croissance de petites métastases encore indécelables. La tumeur principale fabrique des molécules qui retardent la croissance des métastases, comme si elles souhaitaient elles-mêmes avoir le temps de se développer tranquillement. Eh bien, il résulte de l'existence de ces chalones que, quand on fait l'ablation d'une tumeur, eh bien, la vitesse de croissance des petites métastases augmente. C'est ce qui a conduit certains de mes confrères du groupe de travail auquel j'appartenais aux États-Unis de proposer ce que nous avons appelé, par opposition à la chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire celle qui se fait toujours et qui consiste à faire une chimiothérapie après l'ablation chirurgicale, à proposer ce que nous avons appelé à l'époque une chimiothérapie néo-adjuvante, c'est-à-dire débutant quelques semaines avant l'intervention, par sécurité, même si on ne voit pas de métastases, mais parce qu'on suppose, et le plus souvent à juste titre, qu'il y a des petites métastases invisibles, donc les attaquer avant la chirurgie, et puis recommencer cette chimiothérapie aussitôt après celle-ci. Mais cette chimiothérapie néo-adjuvante n'est encore que rarement faite. Il n'y a pas de principe admis généralement par tous les services ou tous les cancérologues. Bien. Avant d'en venir au problème de ce que posent ces chimiothérapies, je dois évidemment préciser ici ce qui a déjà été dit par le professeur Talbot, c'est que le traitement local peut n'être pas une chirurgie, mais une radiothérapie, et qu'il y a désormais de très grands progrès dans ce domaine. Je dois ajouter à ce qui nous a été dit la semaine dernière qu'il y a aussi maintenant ce qu'on appelle une radiothérapie conformationnelle, c'est-à-dire des appareils qui permettent, en irradiant de plusieurs côtés à la fois une petite tumeur, d'irradier pratiquement, enfin que la forte dose soit donnée pratiquement sur la seule tumeur où qu'elle se trouve, en respectant les tissus normaux qui l'entourent. Par conséquent, des traitements locaux, soit par chirurgie, soit par radiothérapie, sont de plus en plus perfectionnés et utiles, mais il ne faut pas oublier ce principe de chimiothérapie adjuvante, néo-adjuvante, je veux dire, qui devrait être systématique. Bien. Alors, naissance de la polychimiothérapie. Voilà, c'est un problème qui m'a beaucoup retenu et passionné autrefois. Donc, j'en reviens au problème des traitements généraux, pré- ou post-opératoires, ou bien ceux qui sont pratiqués à la place d'une chirurgie qui se révèle impossible en raison de l'existence de lésions trop importantes ou diffuses, ou bien de l'état du patient. Ces chimiothérapies anticancéreuses sont apparues au tout début des années 60 et ça a été des découvertes, d'ailleurs, qui continuent, parce que le nombre de chimiothérapies disponibles n'arrête pas d'augmenter. Mais à cette époque, on a rapidement disposé de trois produits. Et les biostatisticiens qui avaient pris le pouvoir dans les groupes coopérateurs ont imposé d'abord qu'on les compare un à un par tirage au sort avec des placebos, c'est-à-dire des produits qui n'avaient strictement aucun effet, mais comme on n'était pas sûr que ces produits seraient efficaces, eh bien, les biostatisticiens avaient décidé qu'il fallait, au début, un tirage au sort. Les patients n'en étaient pas informés. On injectait à ceux que le sort avait désigné un produit qu'on pensait actif, et un autre produit. Et la façon qu'avaient ces biostatisticiens qui étaient formés dans les grandes équipes cancérologiques aux États-Unis, eh bien, ils avaient un moyen d'obliger les cancérologues à respecter. Il y avait deux moyens. Le premier, c'est qu'une publication qui ne comprenait pas une référence à des placebos ne pouvait pas avoir lieu. Elle était refusée par les grandes revues américaines et internationales. Mais le deuxième aussi, c'était que lorsque un dossier avait été validé par les biostatisticiens, le service auquel le cancérologue appartenait recevait une somme en dollars qui n'était pas utilisée par le médecin lui-même, mais par le service pour acquérir des machines, par exemple, etc. Donc, les biostatisticiens avaient pris le pouvoir. Et on comparait, donc, un par un, par tirage au sort, le résultat du produit A, et puis après du produit B, puis après du produit C, en cas de résultats initiaux insuffisants. Et les biostatisticiens définissaient qu'il fallait tant de patients par chaque sous-groupe, de façon à pouvoir valider la réalité d'une différence observé à la fin de ces études, qui réunissaient des groupes importants de cancérologues et qui demandaient plusieurs mois, voire quelques années, pour qu'on arrive au bout. Et à la fin, eh bien, il était admis que le produit A avait tel pourcentage d'efficacité, le produit B tel pourcentage, etc. Ce fut la pratique de l'ensemble de la communauté cancérologique internationale. Et ça n'a pas été la pratique que j'ai observée, mais pour les raisons que je vais vous exposer. J'étais à l'époque médecin assistant dans un service de pneumologie parisien à l'hôpital Laennec. Et je me destinais à la pneumologie. J'y avais en charge, sous la direction du patron, essentiellement des tuberculeux, mais nous recevions aussi des cancers du poumon qui étaient devenus inopérables, qui n'avaient pas leur place dans un service de chirurgie, et il n'y avait pas de service de cancérologie dans les hôpitaux de Paris à l'époque. Par conséquent, ils étaient répartis en fonction de la situation de la tumeur, et donc nous recevions des cancers du poumon, qui avaient récidivé, soit qui étaient déclarés inopérables. Je n'avais reçu jusque-là aucun enseignement de cancérologie. Et par contre, j'étais très intéressé, comme nous tous, par le fait que nous étions devenus capables de guérir tous les tuberculeux en associant trois produits qui étaient disponibles à l'époque, la streptomycine, le rimifon et le PAS. Ces produits étaient apparus non pas simultanément, mais peu à peu. Et bon, les pneumologues n'étaient pas tenus par ces habitudes et ont décidé d'utiliser les trois produits à la fois. D'abord deux quand il y en avait que deux, et puis trois. Et puis avec trois produits, nous nous sommes mis à guérir des tuberculoses avancées. J'ai aussitôt enregistré, comme tous mes confrères, des résultats très importants. Et par conséquent, je me suis convaincu qu'il faudrait faire la même chose pour les cancers du poumon que j'avais dans mes lits. Et j'ai donc associé ces trois produits de chimiothérapie, ce qui n'était fait nulle part. Et comme j'ai été saisi par les résultats, j'ai publié, avec l'autorisation de mon maître, qui était le professeur Étienne Bernard, dans une revue française de pneumologie, un petit article intitulé « Faut-il modifier le traitement des cancers du poumon ?» et où je proposais d'associer trois médicaments à la fois. Ça n'a eu d'ailleurs qu'un très faible retentissement. Et il a fallu alors plusieurs années avant que la communauté cancérologique à laquelle, à l'époque, je n'appartenais pas, cesse de me traiter avec quelque rudesse, et puis finalement tout le monde s'est rallié à ce qu'on a appelé depuis la polychimiothérapie. Depuis d'ailleurs, le nombre de produits, comme je vous le disais, ne fait qu'augmenter, ce qui permet à des polychimiothérapies d'être de plus en plus efficaces. Naturellement, comme chaque chimiothérapie a des effets secondaires, et en particulier sur la moelle osseuse qui fabrique les globules rouges et les globules blancs, il faut faire attention, il faut respecter des dosages après études, etc. Mais finalement, ce qui est apparu, c'est que il est plus difficile à une cellule cancéreuse de résister à trois molécules ayant des effets différents qu'à une seule. Et donc la polychimiothérapie est devenue un geste absolument unique dans le monde entier. Mais ceci m'amène à un nouveau problème plus récent. Les chimiothérapies sont malheureusement encore loin d'être toujours capables d'éradiquer une tumeur qui s'est révélée rapidement résistante à certains produits ou qui a résisté après diverses chimiothérapies ou radiothérapies. Ce n'est pas surprenant car les capacités de résistance à divers traitements augmentent avec le nombre de cellules tumorales, de sorte qu'il est indispensable d'associer aux chimiothérapies toutes les autres molécules qui n'en sont pas, mais qui peuvent les renforcer ou bien se montrer elles-mêmes efficaces par des mécanismes différents sur les cellules tumorales. Et alors là, il y a un problème, parce que on peut découvrir simplement, en explorant la littérature scientifique internationale, que bien des substances autres que des chimiothérapies peuvent avoir des effets anticancéreux validés par les biologistes, mais qu'ils ne sont que rarement utilisés pour des raisons que je ne m'explique pas. Je rappelle que moi, j'ai été mis à la retraite il y a 12 ans, enfin 11 ans et demi, et que bon, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas intervenir dans ce domaine. Mais comme je reçois toujours dans un dispensaire où je suis bénévole des patients qui viennent d'un petit peu partout. D'une part, je leur prescris des traitements dont je vais vous parler. D'autre part, j'essaie de convaincre leur médecin traitant de les poursuivre. Alors, quelles sont ces molécules qui ne sont pas des chimiothérapies? Eh bien, par exemple, la vitamine A, qui est connue depuis longtemps par les hématologistes, parce qu'ils ont utilisé un dérivé de la vitamine A qui s'appelle l'acide rétinoïque dans les leucémies, bien avant qu'on l'utilise dans les cancers et avec de bons résultats. La vitamine D a un effet très curieux. Les cellules normales abîmées se suicident. On appelle ça une apoptose. Il y a une série d'événements chimiques qui se déclenchent en elles-mêmes et qui la tuent. Et une cellule cancéreuse a des mécanismes qui empêchent ce suicide, donc qu'on appelle apoptose. Eh bien, la vitamine D permet à des cellules même cancéreuses de se suicider en cas de dommage plutôt que de continuer à survivre et à se diviser. D'autres produits que je continue à citer, le professeur Vacheron, dans sa communication dernièrement, nous a parlé des statines utilisées contre le cholestérol avec succès. Eh bien, il s'est avéré que ces statines bloquent un gène qui s'appelle le gène RAS, RAS, et que les cellules cancéreuses utilisent pour leur croissance. D'autre part, des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires de nouvelle génération, il a été montré par plusieurs groupes de chercheurs dans plusieurs pays qu'ils ont la capacité de bloquer la vascularisation des tumeurs. Je continue parce que je crois qu'il est utile de signaler toutes les possibilités thérapeutiques. Il a été montré que les cellules cancéreuses ont une accumulation de métaux lourds anormales et en particulier de cuivre. Et ça ne peut pas être par hasard. Ces cellules cancéreuses quand elles ont une anomalie, quand on y détecte une anomalie, c'est parce qu'elle est utile à leur prolifération et leur survie. Eh bien, il a été montré que c'est des substances qu'on appelle des chélateurs et qui bloquent les métaux lourds et les font sortir de ces cellules sont aussi utiles dans les cancers. Un autre exemple du fait que les cellules cancéreuses savent se doter de tout ce qui est utile à leur progression, je vais vous parler de tumeurs qu'on appelle des mésothéliomes, qui sont des tumeurs de la plèvre ou du péritoine. Et j'avais appris dans les manuels qu'il y avait un excès d'acide hyaluronique dans le liquide de ces pleurésies ou de ces accumulations de liquide dans le péritoine. Et je me suis dit, ça ne peut pas être par hasard, c'est exactement comme pour tout le reste. S'il y a un excès d'acide hyaluronique, c'est qu'elles en ont besoin. Lorsqu'on fait une ponction d'un mésothéliome pleural, il arrive très souvent qu'on emmène des cellules cancéreuses juste sous la peau à l'endroit où on a mis l'aiguille et que se développe une petite tumeur qui est faite des mêmes cellules que celles de la tumeur initiale. Je vais donc commencer par injecter de l'hyaluronidase, c'est-à-dire l'enzyme qui détruit l'acide hyaluronique, dans ces petites tumeurs, et je les ai vues disparaître. Et tous mes collaborateurs avec moi, etc. Puis j'ai rapporté ça à mes collègues des groupes coopérateurs internationaux. Mais donc, il est avéré maintenant que l'injection d'acide de hyaluronidase qui détruit l'acide hyaluronique doit être utilisée localement dans le traitement des mésothéliomes, mais ça n'est utilisé malheureusement que très rarement encore. Je continue avec les produits qui n'ont pas encore reçu l'aval des grands groupes coopérateurs internationaux. Il y a un inhibiteur d'un facteur de croissance qu'on appelle la somatostatine. Ce facteur de croissance est fabriqué par le pancréas, on l'appelle IGF, et il circule partout, mais il est largement utilisé par les cellules tumorales qui développent, et ça ne peut pas être par hasard, des récepteurs à ce facteur de croissance pour pouvoir l'accrocher et s'en servir. Eh bien, la somatostatine, qui est un produit qui s'injecte par voie intramusculaire, qui ne provoque aucun trouble, inhibe ce facteur de croissance et par conséquent est utile sans aucun effet secondaire important dans le traitement des cancers. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut utiliser en même temps tous les moyens possibles si on veut vaincre un cancer. Bon, on le fait avec les anti-hormones pour les cancers du sein ou les cancers de la prostate, et ça, c'est entré dans la thérapeutique habituelle. Mais aucun de ces autres produits n'est malheureusement utilisé habituellement, et je vais vous en citer un autre. On l'appelle le neupogène, c'est un produit qui a été, une molécule qui a été fabriquée pour pouvoir réparer les dommages des chimiothérapies sur le sang, notamment sur les globules blancs. Les chimiothérapies font baisser le taux des globules blancs, ce qui peut être fâcheux, favoriser des infections, etc. Et les chercheurs ont fabriqué et découvert un produit qu'on appelle le neupogène et qui stimule la croissance des globules blancs ce qu'on doit utiliser quand la chimiothérapie les fait diminuer. Eh bien, j'ai découvert un jour dans un papier d'un collègue américain quelque chose qui m'a extrêmement séduit. Étant donné que ce produit favorise la multiplication des globules blancs et donc augmente l'immunité vis-à-vis de toutes les agressions, qu'elles soient bactériennes ou cancéreuses, etc., il a eu l'idée, il a publié ça dans une grande revue internationale, mais malheureusement sans aucune suite, parce que ça se passait il y a plusieurs années, il a eu l'idée de donner ce produit par aérosol dans des situations où il y a plusieurs métastases pulmonaires. Et chaque cancer peut donner beaucoup de métastases pulmonaires. Elles sont réparties, il y en a deux ou trois de chaque côté. C'est des situations vraiment très difficiles, délicates. Mais les aérosols de cette substance augmentent considérablement les effets des chimiothérapies sur ces métastases et ont permis d'en triompher. Alors, il se trouve que ce produit est très cher, qu'il n'est pas du tout facile de s'en procurer dans les pharmacies, si ce n'est dans les pharmacies hospitalières, et ça pose un problème. Mais j'ai convaincu un certain nombre de patients de trouver les moyens de s'en donner. J'ai prescrit ces aérosols sur la foi de ce qu'avait écrit mon confrère et que je trouvais tout à fait astucieux, et effectivement, ça marche. Ça dope les globules blancs, ça les fait augmenter en nombre, mais aussi en efficacité, et ça développe leur faculté antitumorale. Donc, vous voyez qu'il y a des quantités de choses possibles qu'il faudrait associer. Un cancer, de par l'histoire que je vous ai décrite depuis les archéobactéries, n'existe que parce qu'il a des quantités considérables de moyens de défense contre le milieu, pour que les cellules puissent se donner une postérité. Et bien donc, il est absolument indispensable d'associer le maximum de molécules pour arriver à verrouiller un cancer. Alors, bon, je signale en outre que plusieurs des produits que je viens de citer, y compris ceux qu'on peut prendre par la bouche, comme les statines et qui n'ont aucun dommage, ont des effets préventifs qui seraient très utiles à des personnes à risque en raison soit d'anomalies génétiques héréditaires, soit de l'environnement, ce qui va me conduire à ce dont je veux maintenant vous parler. Mais donc, il y a, vous voyez, du point de vue de la thérapeutique, on n'est pas au maximum dans les habitudes en général de tous les pays du monde, parce qu'on peut, bon, toutes ces choses, on peut les retrouver sur Medline, sur Google, etc. Bon, ce ne sont pas des inventions, ça a été publié, inventé par des gens qui avaient l'astuce de penser à ces choses. Moi, j'ai pu vérifier que c'était en effet utile et que si on associe tout cela, on peut arriver à une thérapeutique bien meilleure que la moyenne actuelle. Mais bon, ça n'est encore que trop rarement fait. J'en viens au problème d'environnement et de protection. On sait que le tabac est responsable de la grande majorité des cancers du poumon, que l'usage de la pilule contraceptive augmente les taux des cancers du sein, que l'usage immodéré de l'alcool peut aider à induire des cancers du foie, que les ultraviolets solaires peuvent, heureusement pas toujours, mais peuvent induire un cancer de la peau que l'on appelle un mélanome. Mais il se trouve en plus que depuis quelques décennies, différents facteurs liés à l'environnement sont venus massivement s'ajouter à ceux que je viens de citer et laissent entrevoir de véritables catastrophes à court terme si on ne parvient pas à y porter remède. Je veux parler par exemple des pesticides, des vapeurs provenant des cheminées d'usines ou des moteurs de voitures, ainsi que de toutes les radiations ionisantes provenant des moyens modernes de communication. Il faut du reste mentionner ici que ces modificateurs de l'environnement ne provoquent pas que des cancers, mais aussi des stérilités, des maladies dégénératives du système nerveux, des malformations congénitales dues à divers produits mutagènes. On observe par ailleurs de plus en plus de cancers dans le jeune âge qui sont très probablement liés à l'environnement. Alors, donc, outre les gestes de prévention individuelle, comme ce qu'on fait actuellement pour populariser l'arrêt du tabac, il est clair que nos sociétés doivent de toute urgence prendre en charge la défense de l'environnement et que les cancérologues très concernés doivent appuyer toutes les initiatives possibles, et cela dans les plus brefs délais. Mais la prévention n'est pas faite que de gestes consistant à éviter les produits et les attitudes nocifs. Il existe également des gestes positifs. Toutes les agressions que subissent les gènes, les altérations génétiques, se font par l'intermédiaire d'un processus d'oxydation, qui est de loin le plus fréquent. Je n'entrerai pas dans le détail de la biochimie, mais on peut se protéger contre l'oxydation. Alors, d'une part, en consommant régulièrement des fruits et des légumes, c'est ce qu'on nous dit à la télévision et on a raison, il faut que chaque repas comporte des fruits et des légumes qui contiennent des antioxydants. Et je veux signaler que le plus actif connu a été nommé le lycopène et il est contenu dans les tomates crues. Les tomates crues sont un antioxydant extrêmement puissant et il est vraiment dommage de s'en priver aujourd'hui. Bon, alors il y a aussi, en dehors du fait qui consiste à éviter des habitudes dangereuses, à modifier l'environnement, etc., il y a ce problème que je n'aborde qu'en passant, mais qui est très important, c'est celui du dépistage précoce systématique. Il est absolument nécessaire d'en parler, de répandre ses habitudes. Des échographies du sein ou de la prostate, c'est absolument pas dangereux, ça ne procure aucun rayonnement. Je dis pas qu'il faut faire ça tous les 6 mois, mais à partir d'un certain âge, tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 18 mois. Je terminerai en disant encore un mot de la génétique. D'une part, pour mentionner que certains cancers, comme le cancer médullaire de la thyroïde, identifié par le professeur Milo, un de mes chers collègues, en découvrant sa sécrétion de calcitonine, peuvent être liés à une défaillance génétique congénitale et transmise par l'un des géniteurs. Mais d'autre part, que compte tenu des progrès en cours, on pourra un jour prochain ajouter aux thérapies actuelles des moyens proprement génétiques, des molécules qui iront rectifier une anomalie génétique liée à un phénomène d'oxydation. On identifiera les lésions génétiques génératrices de développement cancéreux chez tel ou tel individu, parce qu'elles ne sont pas forcément les mêmes, et on donnera le produit inhibiteur. C'est donc sur cette note d'espoir que je termine. Pendant de longues années, le diagnostic de cancer a été un terrible verdict. Aujourd'hui, un cancer sur deux est guéri, les longues survies se multiplient, la guérison de certains cancers, comme le cancer du testicule chez les adolescents, s'élève maintenant au-dessus de 95% des cas, celui des cancers de la thyroïde à plus de 80% des cas, le pronostic de certains lymphomes des cancers des globules blancs est radicalement transformé. Donc, des produits considérables ont été réalisés depuis plusieurs décennies. Je souhaiterais toutefois, en terminant, signaler ce qui suit. Compte tenu de cette accélération des découvertes thérapeutiques, le fait de stabiliser ou même de ralentir une tumeur qu'on ne peut aujourd'hui guérir peut permettre d'espérer, compte tenu de la vitesse à laquelle arrivent de nouvelles thérapeutiques, il est indispensable d'enseigner cette combativité aux jeunes générations médicales. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication du professeur de médecine en cancérologie Lucien Israël, membre de l'Institut et président de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2007. Sa communication s'intitulait « Le cancer, de quoi s'agit-il ?»